Nous savons que David avait à cœur de construire un temple pour l'Éternel, car il culpabilisait d'une certaine manière, dans le sens où il se disait « Moi j'ai une maison et l'Éternel n'a pas lui-même une maison digne de ce nom ». Mais l'Éternel lui a répondu que ce n'était pas à lui de construire cette maison, mais que ça allait être son fils Salomon qui allait accomplir cette tâche. Donc David a reçu les plans du temple qu'il a lui-même ensuite confié à son fils. Entre parenthèses, ça nous montre bien d'ailleurs qu'on peut avoir de bonnes idées, on peut avoir un cœur après Dieu et avoir même l'idée de faire quelque chose qui corresponde à la volonté de Dieu. Simplement, ce n'est pas à nous de l'accomplir parce que Dieu veut accorder cette tâche à quelqu'un d'autre. Donc on s'aperçoit qu'on peut être spirituel, on peut comprendre le plan de Dieu, on peut penser avec Dieu au point même de vouloir, comme c'est le cas de David, de construire une maison pour Dieu, ce qui correspondait à la volonté de l'Éternel lui-même. Néanmoins, Dieu avait décidé que ce n'était pas David qui allait construire ce temple. Donc même si c'est lui qui avait eu l'idée, sachant évidemment que l'idée était déjà en Dieu de toute éternité, mais même si David était peut-être le premier homme à avoir eu cette idée, c'est pas parce qu'il avait eu cette idée que c'était à lui de l'accomplir. Et donc ça nous parle là de façon plus pratique que dans l'œuvre de Christ, dans l'œuvre de Dieu, on peut prier pour certaines choses, on peut avoir à cœur certains ministères, certains accomplissements. Néanmoins, faisons attention de ne pas mettre la main sur ce qui n'est pas la volonté de Dieu, sachant que Dieu a d'autres personnes que nous-mêmes pour accomplir sa volonté. C'est le cas par exemple dans l'évangélisation, notamment au niveau de nos proches, bien entendu que nous devons leur parler, nous faisons au mieux. Ou alors on peut aussi prier des fois et se taire quand on sent qu'il y a un blocage, et c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va accomplir le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, mais nous ne sommes pas, nous individuellement, en charge d'accomplir entièrement le plan de Dieu, ou même d'accomplir ce que nous croyons être des bonnes idées. Donc, fermons cette parenthèse et parlons maintenant de Salomon. Et j'aimerais que pour cela que nous lisions le chapitre 5 et les 18 versets que compose ce chapitre. Donc, c'est un tout petit peu long, mais c'est pour que nous puissions entrer dans cette ambiance. Donc, il est dit là dans 1 Roi, chapitre 5, versets 1 à 18. « Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. » Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, « Ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. » Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie et il dit « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Et Hiram fit répondre à Salomon « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. « Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. » Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient un mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres de la montagne, sans compter les chefs, au nombre de 3 300, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram, et les Gibliens les taillèrent, et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Il y a plusieurs enseignements que l'on peut tirer de ce passage, mais j'aimerais vous parler d'une chose aujourd'hui. Nous voyons là que Salomon a pu construire le temple parce que le royaume d'Israël était dans une période de paix. Nous savons qu'une des raisons pour laquelle David n'a pas été choisi par Dieu pour construire le temple, c'est que l'Éternel lui a dit « Tu es un homme de sang, un homme de guerre, alors que ton fils sera un homme de paix ». Ça ne voulait pas dire que David s'était discrédité en faisant la guerre. Tout simplement, c'est que lui avait été appelé durant une période de l'histoire, et de l'histoire d'Israël en particulier, où Israël comptait beaucoup d'ennemis. Donc David, premièrement, devait se concentrer sur l'objectif premier du moment, qui était de consolider le royaume, d'étouffer tous ses ennemis alentour et de préparer une période de paix. Donc son ministère, sa tâche, était celle-là. Il avait été doté de certains dons, il était doué pour cela, il était intègre, il était aimé de son entourage, c'était un bon chef de guerre, et donc il devait consolider le royaume d'Israël tel que l'Éternel le lui avait demandé. Donc nous voyons là qu'il y a des saisons différentes, et des fois on peut être un peu frustré de certaines choses, de certaines conditions, en disant « j'aimerais faire tel projet, j'aimerais accomplir tel ou tel projet, j'aimerais accomplir ceci pour le Seigneur », mais néanmoins ce n'est pas encore le moment. D'ailleurs ça peut être le cas aussi dans nos projets plus personnels. Mais ce qui est important, c'est d'agir en fonction des saisons, des circonstances. On ne doit pas être étouffé par les circonstances et en même temps on doit être disponible pour Dieu et son royaume en fonction aussi des circonstances. On peut penser par exemple que l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, avait sans doute le désir de parcourir le monde et d'annoncer l'évangile aux nations. Néanmoins, il a dû s'adapter aux circonstances que Dieu permettait dans sa vie. Et il a utilisé sa bouche, sa vie, son comportement, son corps, son intelligence en prison. Il a écrit des épîtres, il a prié, intercédé, évangélisé son entourage. Et donc on voit ça tout au long de l'histoire, que ça soit Daniel par exemple à Babylone, Joseph en Égypte, les amis de Daniel là encore à Babylone, Esther, toutes ces personnes qui ont dû œuvrer pour le Seigneur dans des circonstances difficiles n'ont pas eu peut-être la vie qu'ils auraient aimé avoir, néanmoins ils sont restés disponibles pour le Seigneur et donc ça ne les a pas empêchés de manifester le plan et le caractère de Dieu. Et donc il en était de même pour David. Donc David, une fois qu'il est parti et qu'il a rejoint le Seigneur, il a laissé un royaume en paix. Et c'est intéressant parce que Salomon dit au verset 3 « Tu sais que David mon père n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. » Donc j'ai dit dans un premier temps que David avait été appelé pour ça, mais aussi de façon très pratique, ça aurait été difficile de construire le temple tout en faisant la guerre. Là on voit bien que Hiram, qui est un ami de Salomon, qui fait alliance avec lui, et entre parenthèses, nous voyons que la destinée d'Israël qui consistait à révéler l'Éternel et le Dieu vivant s'accomplit là au travers de la relation de Salomon et d'Hiram, puisque Hiram lui-même va louer l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire dans la nation d'Israël. Il loue l'Éternel pour la vie de Salomon. Donc nous voyons qu'Israël rayonne, pas simplement grâce à ses richesses et à sa force ou à sa puissance, mais aussi elle exerce une lumière au milieu des ténèbres et donc peut toucher les nations environnantes. De la même façon que nous-mêmes, nous sommes comme un petit royaume, nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous pouvons rayonner autour de nous et impacter notre entourage. En tous les cas, la relation que Salomon a avec Hiram est une relation de paix qui permet justement des échanges commerciaux, hein, on le voit, Salomon va recevoir du bois, en échange il va donner des récoltes pour Hiram et pour son royaume. En revanche, du temps de David, ce n'était pas possible. Mais le point là sur lequel j'aimerais maintenant insister, c'est que Salomon va dire ensuite, verset 4, « Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. » Et là, nous avons une belle application s'agissant de l'Église aujourd'hui. Nous savons que l'Église, le corps de Christ, est composé d'individus que nous sommes, et nous sommes chacun individuellement le temple du Saint-Esprit. Pour grandir spirituellement, pour marcher avec Dieu, pour entrer dans notre appel, pour obéir à Dieu, il est très important d'avoir à l'esprit que nous devons avoir une relation paisible, pas paisible simplement avec notre entourage, mais d'abord paisible avec Dieu. Bien entendu, par Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. La croix de Christ et le sang versé nous a donné une position qui nous permet maintenant d'être unis à Dieu, et donc nous faisons partie de sa vie tout comme lui fait partie de la nôtre. Nous sommes intimement liés à lui et destinés un jour à le rencontrer et à être unis à lui dans notre expérience et dans la gloire pour l'éternité. Mais aujourd'hui, il y a un processus qui opère en nous, c'est ce processus de sanctification, c'est une construction que Dieu est en train de faire dans nos vies pour nous amener de plus en plus à l'image du Fils. De la même façon que le temple fait de pierre, et puis d'autres éléments bien entendu, devait être le reflet de la personne de Dieu. Ça devait parler à ceux qui contemplaient le peuple. Il y avait un enseignement au travers de cette structure architecturale. De la même manière, Dieu est en train de construire en nous son image, l'image de Christ. Et donc il est important, pour que cette construction se fasse selon la volonté de Dieu et selon les normes de Dieu, il faut que cette construction se fasse dans la paix. Si je vis dans la culpabilité, si je vis dans la honte, si je vis dans la crainte, si je vis dans la désobéissance ou dans l'endurcissement, bref, si je vis dans la chair, il est impossible pour moi de grandir spirituellement, ou en tout cas, ça va se faire avec des soubresauts et d'une manière qui, pour le coup, évidemment, ne sera pas paisible. Dieu nous a donné sa paix. Par Christ, nous avons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, comme il est dit dans l'Épître aux Philippiens. Et donc, il est important pour nous, si nous voulons grandir spirituellement, de cultiver cette paix avec Dieu. Il est impossible de construire quelque chose qui manifeste la vie de Dieu dans notre existence si c'est construit au milieu d'une guerre, ça ne marchera pas. C'est incompatible. Tout comme en Israël, à l'époque, le temple ne pouvait être construit alors que le pays était en guerre avec son entourage. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre enseignement à avoir, c'est qu'il est difficile aussi de grandir spirituellement si nous sommes en guerre avec ceux qui sont autour de nous. C'est pour ça qu'il est important, tel que Jésus nous l'enseigne par exemple dans les évangiles, mais aussi nous voyons ça dans tout Nouveau Testament et même dans l'Ancien, dans toute la Bible en réalité, il est important de pardonner à nos ennemis, il est important de faire la paix avec ceux qui nous outragent, il est important même de prier pour eux. Bref, c'est dans une atmosphère de paix avec Dieu, mais aussi de paix avec notre entourage, ce qui ne signifie pas que nous sommes amis avec tout le monde ou que tout le monde est notre ami, ça ne signifie pas non plus qu'une relation, une communion peut se manifester ou s'exercer, parce que pour que une relation humaine entre deux individus ou plus puisse se faire, il faut l'accord de toutes les parties. Or, même si nous sommes d'accord pour proposer la paix, en retour, ce n'est pas toujours le cas. Néanmoins, on doit avoir une bonne conscience et de se dire, est-ce que le sang versé à la croix par Christ pour le pardon des péchés du monde entier est efficace dans ma vie? Est-ce qu'il opère dans ma vie? Et c'est ainsi que nous aurons la paix avec notre entourage. Et aussi la paix avec notre passé. Parce que parfois, il y a des personnes que l'on ne voit plus, mais le passé est lourd. Et il faut avoir la paix avec notre passé. Il faut même aussi avoir la paix avec nous-mêmes. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous devons vivre dans cette liberté que l'œuvre de la croix nous a manifestée au travers de la grâce et la vérité qui étaient en Jésus-Christ. Et donc, vivre la vérité, c'est vivre la paix de Dieu. Rappelez-vous, après la résurrection, en permanence, Jésus annonce la paix, que la paix soit sur vous, soyez sans crainte. Et le mot paix revient énormément après la résurrection. Et nous, c'est de la même manière que nous devons envisager, non pas simplement les choses que nous faisons, on doit les faire de façon paisible, bien évidemment, et de manifester ainsi le fruit de l'Esprit, mais aussi, nous devons œuvrer en ayant la paix avec Dieu. Nous avons un Seigneur qui est aussi notre ami. Et c'est ainsi qu'il y aura une construction spirituelle solide. Et cette paix que nous pouvons avoir par Jésus-Christ, que nous pouvons expérimenter, Jésus-Christ non seulement donne la liberté au Saint-Esprit d'œuvrer dans notre vie, parce que nous sommes vraiment unis avec ce Dieu de paix, ce Dieu qui a payé le prix au point d'avoir la puissance et la capacité de déchirer le voile, pas simplement le voile du temple, mais le voile spirituel, le voile des cieux. Nous avons maintenant un accès auprès du trône de la grâce, et donc c'est cette paix avec Dieu, avec notre Seigneur qui est notre ami, qui est celui qui s'est livré pour nous, il est notre sauveur, c'est cette paix de Dieu qui nous permet d'œuvrer en toutes circonstances et qui nous permet aussi d'accepter les difficultés de la vie. Paul avait la paix avec Dieu malgré son opposition à l'Église, et d'ailleurs c'est pour ça que Jésus lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu ?» Donc en persécutant l'Église, il persécutait Jésus-Christ. Mais il n'a pas vécu dans la culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté la paix de Dieu. Et cette paix de Dieu a permis au Saint-Esprit de construire quelque chose en lui, une nouvelle identité. De Saul, il est devenu Paul. Et ce même Paul a pu laisser le Saint-Esprit construire une nouvelle identité en lui, et cette liberté qu'il a reçue en Jésus-Christ lui a donné la liberté au milieu des tribulations, des persécutions et des difficultés. En tout cas, ça lui a donné la liberté de participer à la construction d'un temple qui est l'Église de Jésus-Christ. Et de la même façon, laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous de cette manière dans la paix du Seigneur. Et ça nous amène aussi, et je terminerai là-dessus, à méditer sur le fait que dans l'Église, là je parle de l'Église locale, il est important de préserver la paix entre les membres du corps de Christ. Ce n'est que dans la paix que le Saint-Esprit aura la liberté dans chaque église locale de magnifier la personne de Christ. C'est dans la paix que le temple de Christ peut se construire. C'est dans la paix que la lumière peut briller au milieu des ténèbres. C'est dans la paix aussi qu'on peut évangéliser les autres, tout comme Salomon a pu, en temps de paix, être un témoignage auprès du roi Hiram. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit au verset 4 « Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. » C'est dans le repos de Dieu, le repos de la terre promise, que nous pouvons construire des fondements solides qui auront un impact jusque dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse.